Et ces matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 325 millions d'euros pour répondre au ras-le-bol des policiers à leurs conditions de travail dégradées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut moderniser le quotidien des forces de l'ordre, des voitures au commissariat, en passant par une nouvelle prime de nuit du jamais vu de mémoire de policiers. Satisfait, vous l'entendrez, avant de rencontrer Emmanuel Macron demain.
Et puis à l'agenda présidentiel aujourd'hui, 45 minutes d'interview sur TF1 et France 2 et de nouvelles contraintes annoncées pour tenter d'endiguer la deuxième vague de Covid-19.
La piste d'un couvre-feu largement évoquée alors que la situation sanitaire se dégrade en France. Les jeunes actifs, les étudiants les plus touchés par l'épidémie, détaillent dans ce journal.
À la une également, la menace de manifestations monstres et d'une grève générale en Biélorussie.
Menace brandie par la figure de proue de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya a lancé un ultimatum au président Loukachenko. Il doit quitter le pouvoir le 25 octobre au plus tard.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, j'ai une bonne nouvelle, on a trouvé pire que 2020, 1984. Non, on va parler d'Orwell. Orwell est dans la Pléiade, ça c'est une bonne nouvelle, je recevrai Philippe Jarowski, professeur émérite de littérature américaine à l'université Paris Diderot.
Son passé à Bercy lui a-t-il permis de faire bouger les lignes budgétaires ou bien a-t-il souhaité réagir après la succession d'agressions de policiers à Herblay et Champigny-sur-Marne en l'espace d'une semaine? En tout cas, Gérald Darmanin a semblé calmer au moins pour un temps la colère des syndicats de policiers lors d'une visioconférence hier. Le ministre de l'Intérieur a détaillé la hausse de 325 millions d'euros du budget de son ministère pour 2021, ce qui permettra d'acquérir de nouvelles voitures, des caméras piétons et de rénover des commissariats sans compter une indemnité spéciale pour les agents qui travaillent la nuit, des mesures saluées par les syndicats de Falkenberg.
De mémoire de policier, jamais pareil effort avait été fait. Pour Stanislas Godon, le délégué général du syndicat Alliance, c'est même une étape historique pour les forces de l'ordre.
Je ne crois pas que nous ayons eu un budget avec un virage à 180 degrés comme celui-là.
Le ministre a longuement détaillé les mesures de son budget obtenues au titre du plan de relance, 325 millions d'euros supplémentaires en 2021 pour améliorer le parc automobile, permettre la rénovation des bâtiments, mais aussi mieux équiper les policiers en numérique avec la généralisation des caméras piétons à l'été prochain. Côté rémunération, geste a été fait pour les nuiteux, les travailleurs de nuit, qui obtiennent 15 millions d'euros pour leur prime nocturne. Stanislas Godon poursuit.
Ils étaient toujours à 97 centimes d'euros pour chaque heure travaillée en période nocturne. Il y avait urgence d'obtenir cette indemnité pour travail de nuit par rapport à la fatigue.
Les organisations syndicales attendent maintenant des réponses pénales pour sanctionner plus sévèrement ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Elles ont rendez-vous avec le chef de l'État jeudi et ont appris hier soir que le garde des Sceaux serait présent.
Éric Dupond-Moretti dans le viseur. Par ailleurs, des deux principaux syndicats de magistrats, l'USM et le SM, ils veulent saisir la Commission européenne car ils estiment, je cite, que le fonctionnement des institutions en France ne permet pas de mettre fin aux attaques portées contre les acteurs de la justice économique et financière, ni à un conflit d'intérêts au plus haut sommet de l'État, avec donc le garde des Sceaux. Le Parlement a donné son feu vert hier soir à la nomination de la journaliste du Canard enchaîné, Dominique Simoneau, au poste de contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle souhaite que ses recommandations à venir sur les prisons soient appliquées avec la plus grande fermeté. Pas question, dit-elle, de diriger une institution qui servirait d'alibi.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Emmanuel Macron veut susciter une prise de conscience, un sursaut collectif face au Covid-19 et le terme de couvre-feu pourrait créer l'électrochoc espéré.
Le chef de l'État sera l'invité des journaux de TF1 et de France 2 ce soir dès 19h55. De nouvelles restrictions sanitaires devraient être annoncées. Le gouvernement a déjà préparé les esprits, Stéphane Robert.
Il y a d'abord eu les prises de parole d'Olivier Véran et Bruno Le Maire jeudi dernier. La situation se dégrade, avaient alors constaté les ministres de la Santé et de l'Économie. Le Premier ministre a poursuivi dans le même registre lundi matin. La deuxième vague est là, a expliqué Jean Castex, et il n'a pas écarté de possibles reconfinements partiels ou localisés. La prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir constitue donc le point d'orgue d'une séquence commencée la semaine dernière est destiné à mettre en tension la population. Ces ministres ont en quelque sorte préparé le terrain au chef de l'État. Ils ont fait monter la pression avec dans l'idée de créer une attente et d'ouvrir une fenêtre médiatique pour donner à son message une diffusion et une portée maximale. Alors maintenant, pourquoi faire ? Son idée, explique un de ses proches, est de créer un électrochoc dans l'esprit des Français. Va-t-il annoncer un couvre-feu ou autre chose ? Ça, on verra. En attendant, son intention est de faire comprendre qu'on ne pourra pas éviter la deuxième vague épidémique, mais que si tout le monde en prend conscience et se mobilise, on pourra peut-être éviter un reconfinement généralisé. Et ça, c'est essentiel, poursuit ce proche, car on ne peut pas se permettre de bloquer à nouveau l'économie du pays. Toute la difficulté de l'exercice auquel va se livrer le chef de l'État ce soir consiste donc, encore une fois, à délivrer ce double message. D'un côté, faire comprendre que l'heure est grave, qu'il faut se protéger, que les hôpitaux seront bientôt saturés. Mais en même temps qu'il ne faut pas que la vie s'arrête, pas plus que l'économie du pays. Des messages contradictoires qui, jusqu'ici, n'ont pas permis de lutter efficacement contre une nouvelle progression de la pandémie.
Des messages qui demandent des éclaircissements, c'est ce qu'estime déjà le député socialiste Boris Vallaud.
Avant tout, nous avons besoin d'entendre dans la bouche du président de la République qu'un certain nombre de leçons, des carences qui se sont révélées dans la première vague, ont été surmontées dans la préparation de cette seconde vague dont tout le monde parlait. Je pense à la question des équipements de sécurité, notamment pour les soignants, les masques, les surblouses, les charlottes. On a besoin d'avoir l'assurance que nous ne manquerons pas de médicaments, notamment, je pense, au Cura. Nous avons besoin également d'avoir de la perspective sur les mesures qui seraient annoncées. Donc il y a un problème de crédibilité de la parole publique, il y a une nécessité de la part du président de faire preuve de beaucoup de pédagogie, d'explication pour que la confiance revienne et que cette absence de confiance qui est manifeste à certains égards ne se traduise pas au fond en irrespect d'un certain nombre de mesures qui sont nécessaires à la maîtrise de l'épidémie.
On parle beaucoup là d'un possible couvre-feu qui serait mis en place. Est-ce que c'est une mesure nécessaire selon vous ?
Je lis, comme tout le monde, ce qui s'écrit sur la pandémie. Je regarde où sont les clusters. Ils sont plutôt dans des activités de jour, dans les universités, dans les entreprises. Je m'interroge de savoir si un couvre-feu à 22h a, de ce point de vue-là, beaucoup de sens, d'autant qu'il porte atteinte à des libertés fondamentales. Donc on est dans ce moment-là. La proportionnalité des mesures, la constance des décisions, la transparence dans l'action.
Le député socialiste Boris Vallaud au micro de Sophie Delpont. Le nombre de malades du Covid hospitalisés en réanimation continue d'augmenter en France et franchit pour la première fois depuis le 25 mai dernier le seuil de 1600 patients dans un état grave. Toutes les tranches d'âge ne sont pas frappées de la même manière par le virus. Si l'on regarde notamment le taux d'incidence, le nombre de malades du Covid pour 100 000 habitants, Arnaud Rozac.
Les personnes les plus contaminées par le Covid, ce sont les 15-44 ans. Selon le dernier rapport de Santé publique France, leur taux d'incidence est 3 fois supérieur à celui des seniors. La principale raison, c'est leur mode de vie. Les jeunes actifs bougent, vont au travail, rencontrent des amis. Les personnes âgées, elles, sortent moins, font plus attention. Preuve en est avec la répartition des clusters. Hormis les EHPAD, les principaux foyers de contamination se situent dans le milieu universitaire et dans les entreprises. Les plus fragiles restent les seniors. Depuis début mars, 92% des victimes sont âgées de 65 ans ou plus. Néanmoins, un tiers des 45-64 ans pris en charge finissent, eux, en réanimation. Odile Launay est infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris.
On sait que les plus à risque de mourir de cette infection, ce sont les plus âgés, avec une mortalité qui est extrêmement élevée. Mais chez les gens plus jeunes, le Covid reste une maladie potentiellement grave, en particulier s'il existe des facteurs de risque de faire ces formes graves qui sont le surpoids, le diabète et principalement les maladies cardiaques ou respiratoires sous-jacentes.
Même chez les plus jeunes, le Covid laisse des traces, douleurs pulmonaires, fatigue, vertige. De nombreux patients ayant contracté la maladie il y a plusieurs mois subissent encore aujourd'hui les séquelles de la maladie.
Et Covid oblige, le Salon international de l'agriculture qui attire chaque année au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris plus de 600 000 visiteurs. Ce salon est annulé. Il devait se tenir du 27 février au 7 mars prochain. De leur côté, les Pays-Bas vont être soumis à un confinement partiel à partir d'aujourd'hui. Fermeture de tous les bars et des restaurants. Et puis au Royaume-Uni, l'opposition travailliste appelle le Premier ministre Boris Johnson à confiner l'Angleterre pour 2 ou 3 semaines au moins afin d'enrayer la propagation du Covid. Le Royaume-Uni, dans son ensemble, est le 9e pays qui a au taux de mortalité le plus élevé au monde, avec plus de 66 décès pour 100 000 habitants dans tout le Royaume-Uni. En Biélorussie, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya a lancé hier un ultimatum à Alexandre Loukachenko. Loukachenko, le président doit démissionner d'ici le 25 octobre, faute de quoi l'opposition lancera une grève générale dans tout le pays. Alors que la police biélorusse est désormais autorisée à utiliser des armes létales dans les manifestations, le président sortant s'accroche au pouvoir, mais il esquisse des gestes de dialogue avec l'opposition. Alexandre Loukachenko a d'ailleurs tenu à rencontrer en personne une douzaine de ses opposants, ceux-là même qu'il a fait enfermer Eric Biegala.
La scène est à vrai dire surréaliste. Quelques images en ont été montrées à la télévision d'État. Le président biélorusse attablé avec la fine fleur de ceux qu'il appelle normalement des criminels et qu'il a fait embastiller. Le banquier Viktor Babariko par exemple, ou le blogueur Sergei Tikhanovski, lesquels avaient osé vouloir se présenter contre lui à la présidentielle. 12 opposants sortis de leur cellule et réunis au siège du KGB à Minsk samedi pour discuter pendant près de 5 heures avec Alexandre Loukachenko. Les détails de l'entrevue ont commencé à filtrer hier quand les participants ont pu en parler avec leurs avocats respectifs. Tikhanovski a été autorisé à téléphoner à sa femme, Svietlana, en exil en Lituanie, qui fait aujourd'hui office de chef de file de l'opposition. D'autres ont été conduits au bain, deux de ses opposants ont même été libérés, et l'un d'eux semble même avoir reçu la consigne de rédiger quelques propositions de modification constitutionnelle, rapporte son avocat. Manifestement, Loukachenko semble donc disposé à une sorte de transition politique, mais à sa main, discutant avec une opposition captive, il n'a d'ailleurs pas hésité à faire arrêter ce week-end plus de 700 personnes supplémentaires qui manifestaient pacifiquement contre lui.
À moins de 20 jours de la présidentielle aux États-Unis, le président républicain Donald Trump s'est rendu sur les terres de son rival démocrate Joe Biden et il a accusé Joe Biden de vouloir interdire la fracturation hydraulique, une mesure qui, selon lui, nuirait à l'économie de la Pennsylvanie. C'était lors donc d'un meeting en Pennsylvanie. De son côté, Joe Biden s'est lui rendu en Floride cherchant à conquérir l'électorat senior en critiquant la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus. En ce mercredi jour de sortie cinéma dans le contexte sanitaire que l'on connaît, Drunk, le nouveau film du réalisateur danois Thomas Wittenberg est sur les écrans, ainsi que la deuxième partie d'Israël, le voyage interdit de Jean-Pierre Liédot, un documentaire fleuve de plus de 11 heures, conçu en 4 parties, dont Antoine Guillot parlait dans Plan Large samedi dernier, et c'est à réécouter sur franceculture.fr. Les exploitants de cinéma comptent encore sur la sortie aujourd'hui de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet, ou la semaine prochaine d'Adieu les cons d'Albert Dupontel pour renflouer leurs caisses après des pertes estimées à 750 millions d'euros depuis le déconfinement. C'est plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Un manque à gagner dû au report ou à l'annulation de super productions américaines comme Mulan ou Soul, le dernier film d'animation de Pixar, privé de salles obscures. Des films qui sortiront directement sur la plateforme de streaming Disney+. Jocelyn Bouissy, directeur général du groupe de cinéma CGR, est partagé entre frustration et espoir.
Ils partent du principe que si on ne sort pas aux États-Unis, on ne sort pas dans le monde entier. Ils mettent tout le monde à genoux. Et je me dis que maintenant, il y a tellement de films français, et bien on va se battre avec nos armes. Il faudrait que ça soit un nouveau départ pour nous. Qu'on garde un marché national aussi fort, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays du monde, quasi. On est le pays de l'exception culturelle. Et donc, il faut que tout le monde tienne, il faut que les tournages continuent à se faire, qu'on redémarre en octobre, parce que si jamais il y avait des fermetures de cinéma ou moins de films, on entraînerait le marché vers le bas, et forcément, à terme, il y aurait une production moindre, et on mettrait ce marché national à mal.
Jocelyn Bouissy, le directeur général du groupe de cinéma CGR, au micro de Thomas Larabi, que l'on retrouve à 7h25 pour le reportage de la rédaction consacré à la difficile survie des cinémas en France. Le temps de ce mercredi 14 octobre, perturbé et frais, les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 11 et 20 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Orwell dans la Pléiade, on en parle dans quelques instants à 7h13 sur France Culture.